Chapitre 2. Zéphyr à la baïonnette. Un quart d'heure après, on aurait pu rencontrer Pistolet, flânant, le nez au vent, dans la rue de la Monnaie, en regardant les dames à travers la fumée de son cigare à paille. Il pensait, l'homme a sa destinée, selon la croyance des contrées fatalistes où j'ai voyagé en musulmanie. Me voilà encore lancé malgré moi dans une affaire de surveillance et de découvrez-moi ça. C'est drôle que j'y vais avec plaisir, malgré ma crainte du déshonneur auprès des femmes, qui ne peuvent pas souffrir la police. Mèche, ma calabraise l'abominait. Et dans tout le sexe qui passe aux alentours, on n'en trouverait pas une qui ait de l'œil comme Mèche. Elle me coûtait bon, avalant des 6 à 10 sous de bière et gâteaux par soirée, mais je ne la remplacerai pas pour la séduction et la tour. Qu'égal, c'était le chic des chics, ce monstre-là, y a pas à dire, je l'idole encore. « À deux sous, le gros tas, à deux sous !» cria en avant de lui une voix éraillée. « Domino !» fit Pistolet, qui cambra aussitôt avec plus d'élégance encore sa taille dégingandée. « Voilà, madame Choufleur, je ne serai pas obligé d'aller jusqu'à la halle. » Madame Choufleur, qui s'appelait de son nom Clémentine, était une bonne grosse marchande des 4 saisons, jeune encore, mais ne portant déjà plus d'âge sur sa figure bronzée. Elle traînait sa charrette lourdement, jetant son cri d'une voix rauque, et laissant échapper de son madras, posé à la diable, des cheveux qui ressemblaient à une broussaille. Chose singulière, ce Pistolet, malgré son incontestable laideur, plaisait réellement aux dames. Aussitôt que Choufleur l'aperçut, elle donna un coup de main à son madras, lissa ses cheveux révoltés, et rétablit de son mieux les plis terriblement désordonnés de son corsage. Ce fut d'une voix presque douce qu'elle chanta « À deux sous, le gros tas, à deux sous !»« Bonjour, madame Landerneau, » lui dit Pistolet, qui se découvrit avec galanterie. « Comment vous va aujourd'hui? Je vous cherchais justement dans le quartier. » Choufleur devint rouge comme une pivoine et montra des dents saines et assez blanches qu'elle avait en un énorme sourire. « Vraiment, monsieur Clampin, répondit-elle, vous n'en manquez pas de personnes à fréquenter pourtant dans tous les quartiers. » « Je vais vous dire, madame Landerneau, c'est des bêtises. Un jeune homme n'est pas né pour courir, ou du moins, il faut une liaison pour l'âme. J'avais Mèche. » Ah oui, la grande, marquée de la Verrette. Pas beaucoup, madame Landerneau, et de l'œil, approchant comme vous. La marchande baissa les yeux avec coquetterie en murmurant. Vous êtes bien honnête tout de même, monsieur Clampin. Enfin, je l'avais, reprit Pistolet, et je veux voir à la remplacer pour me fixer fidèlement jusqu'à la mort. « Quoi, qu'est-elle donc devenue, au fait, cette grande Mèche ?» demanda Choufleur, qui oubliait désormais d'offrir ses légumes aux passants. Pistolet minauda d'un air modeste. « M'ayant absenté pour un voyage de long cours, répondit-il, on présuppose qu'elle ait péri naturellement ou suicidée. Sa tendresse pour son amant ne connaissait pas de bornes. » « Ah, pauvre fille !» soupira Choufleur, dont les paupières sensibles se mouillèrent. « Est-ce que vous accepteriez n'importe quoi sur le comptoir, monsieur Clampin ?»« Je paie pour les dames, » répondit noblement le gamin. « C'est mon caractère. » Il offrit en même temps son bras. « Attendez voir, » dit la marchande, qui empoigna vigoureusement les deux bras de sa charrette et la poussa sous une porte cochère. « Les sergents de ville, ça ne pense qu'à faire de la peine au monde. » Le couple entra chez le marchand de vin voisin, Pistolet un peu honteux, Clémentine heureuse et fière. On prit une prune et on causa. Pistolet, dès qu'il lui était permis de causer, apprenait bien vite ce qu'il voulait savoir. Mais il se trouva que Clémentine, la pauvre femme, qu'elle fût ou non légitimement mariée à Landerneau, ignorait la principale industrie de ce dernier. Elle ne connaissait ni coterie ni coyatier. Un instant, le gamin resta déconcerté, mais son imagination fertile aidant, il improvisa un autre plan. « Je vais vous dire, Clémentine, murmura-t-il à l'oreille de la marchande en trinquant pour la troisième fois, mon inclination vous a choisi, quoi donc, on reparlera de ça dans le mystère, cabinet et tout, mais il s'agit présentement d'une délicatesse. Soyez muette, comme la tombe avec votre époux, c'est tout ce qu'il y a de plus à faire de confiance. Voilà l'histoire en succinct. » Un jeune homme, enlevé à sa famille éplorée, passage Saint-Roch, pas les parents de la victime, mais bien le tyran qui l'opprime, rapport à ce qu'il est payé par les oncles qui comptent hériter du père. Je ne dirai pas cela à mon notaire, vous seul au monde en avez le secret, et que c'est dangereux pour moi de me montrer aux alentours de l'établissement, parce qu'on m'y connaît. Alors j'ai, dans le besoin pressant d'y jeter un coup d'œil, songé à vous. « À moi ?» répéta la marchande étonnée. Pistolet se compromit jusqu'à lui toucher le menton. « Farceuse petite mère, dit-il, vous l'avez encore plus coquin que mèche. J'entends l'œil. M'aimera-t-on un petit peu, Clémentine ?» Clémentine éclatait d'orgueil et de joie. « Alors en route !» commanda le gamin. « Zéphyr, pas accéléré. On va vous expliquer la chose à la maison. Chez vous, monsieur Clampin ?» « Chez vous, madame Landerneau, vous y possédez les moyens de me tirer d'embarras en sauvant la jeune victime, duquel la famille vous en aura une reconnaissance éternelle. » Clémentine reprit ses brancards et roula vers la rue Aubry-le-Boucher, où était son domicile. Tout le long de la route, dans son triomphe sentimental, elle rebutait les acheteurs. « Vous repasserez, ma poule, disait-elle. Une autre fois, mon bijou. Ah, au jour d'aujourd'hui, je n'arrête pas, le feu est à la maison. » L'établissement de Madame Landerneau se composait d'une chambre sous les toits et au rez-de-chaussée d'un hangar couvert où elle remisait sa voiture. Pistolet la rejoignit à la porte du hangar et lui dit « Entrons, la petite mère, c'est ici qu'on va vous révéler le secret des secrets. » Madame Landerneau entra, laissant la voiture à la porte. Pistolet ajouta « La voiture aussi, elle fait partie intégrante des mystères. Allez-y, Clémentine. » Clémentine, modèle d'obéissance, y alla et introduisit la charrette au milieu des légumes amoncelés. « Les salades y auront aussi leur part au secret, dit Pistolet, et les carottes. On va monter une mécanique qui aurait du succès au théâtre. Courez me chercher une vrille et un paillasson, amour que vous êtes, pendant que je vas décharger tout ça. En avez-vous des attraits, bijoux de femme ?» Clémentine resta un instant indécise. « Une vrille, murmura-t-elle, un paillasson ?»« Demain, répliqua Pistolet, on échangera les serments de s'aimer jusqu'à l'éternité, au barreau vert. Aujourd'hui, c'est l'ouvrage du dévouement. Allez-y, idole de Clémentine, c'est pour le malheureux jeune homme, ravi à ses parents. » « Faut faire tout ce qu'il veut, ce démon-là, » grommela la marchande. Pistolet déchargeait déjà la charrette. Quand Madame Landerneau revint, la charrette était vide. Pistolet prit la vrille et pratiqua 5 ou 6 trous à la paroi gauche après s'être couché au fond bien commodément et avoir pris la mesure de l'endroit où portait sa tête. La marchande le regardait faire et demandait de temps en temps, avec une curiosité croissante, « Quoi que vous allez brocanter, monsieur Clampin, c'est trop drôle !»« Pas de secret pour vous, la petite mère, » répondit Pistolet. « Vous en êtes une moitié de moi-même, quoi. C'est le commencement de l'opération. Est-ce qu'on voit les trous en dehors ?»« Pas beaucoup. Virez un peu l'embarcation, qu'on juge les faits. » Quand les trous, pratiqués à la vrille, se trouvèrent en face de la porte, Pistolet commanda halte et y appliqua ses yeux en dedans. « Ah, on sera là en loge grillée, » dit-il joyeusement, « au paillasson, maintenant. »« C'est pour mettre sous vous le paillasson, monsieur Clampin ?»« Non, idole, c'est pour mettre sur moi. »« Et pourquoi faire, monsieur Clampin ?»« Pour empêcher les différents légumes de m'étouffer à la fleur de mon âge, ma compagne. » « Des légumes, fit Clémentine. Ah, ça, ça, expliquez-vous, je suis sur le grill, moi, dites donc. » Madame Landerneau prononça gravement le gamin, « Vous allez participer à une anecdote curieuse, et ça vous fera plaisir plus tard de vous rappeler ces instants. Les commencements de notre connaissance, que nous allons nouer ensemble, indélébiles, se mélangent à un travail honorable, ça portera bonheur à notre félicité. Voilà l'ordre de la marche du secret, ayez la bonté d'écouter attentivement. » La marchande était tout oreille. Pistolet reprit, en lui envoyant un baiser, « Moi, dessous, pas vrai, dessus, le paillasson, et encore par-dessus, les légumes, est-ce clair ? Et après ?»« Après, vous prenez vos brancards et la rue Saint-Honoré jusqu'au passage Saint-Roch, dont il a été mention. Vous entrez dans le passage et vous stationnez devant la porte de la Grande Bouteille, qui est un cabaret tenu par un citoyen nommé Joseph Moinet. » En ayant soin que le côté gauche de votre voiture soit tourné vers l'entrée du marchand de vin, à cette fin que moi, dans mon confessionnal, je puisse y jeter à l'intérieur le coup d'œil de l'amitié. Comprenez-vous ? Oui, répondit la marchande. Et qu'en dites-vous ? Que vous êtes rudement malin, mais... Clémentine hésitait. Mais quoi ? Demanda Pistolet. C'est que, on dit comme ça que vous flânez pas mal autour de la rue de Jérusalem, monsieur Clampin. Le gamin sauta hors de la voiture et croisa ses bras sur sa poitrine. « Clémentine, dit-il avec une noble tristesse, adieu pour toujours. Ma tendresse au vis-à-vis de vous, égalez vos attraits, je m'en prive, prête à tout, excepté d'être insulté dans mon honneur par les femmes. » Il se dirigea vers la porte. Madame Landernau se lança sur lui et l'entoura de ses robustes bras. « Je n'y ai pas cru, monsieur Clampin, s'écria-t-elle. Seule mauvaise langue. On fera tout ce que vous voudrez. » Le Pistolet résista un instant, mais enfin l'émotion l'emporta, et il remonta dans la charrette en disant « Vous l'emportez, idole, mais souvenez-vous que je préférerais la mort à être méprisée par celle qu'on aime. » Il se coucha. Clémentine, repentante et zélée, lui étendit le paillasson sur le dos. Au moment où les légumes à poncelet cachaient déjà le paillasson, une voix avinée cria dans la cour « Madame Landernau, ohé !»« Tiens, fit Pistolet, voici 33e. Je lui ai gagné 18 sous au bouchon ce matin. Amour, dites-lui qu'il se donne la peine d'entrer. » « Je vais me coucher, femme, dit le chiffonnier à la porte du hangar. Tu sais, le Pistolet en est, décidément. Je l'ai surpris ce matin. Fais-lui bonne mine, on lui jettera une boulette un soir au clair de la lune. » « C'est bon, gronda la marchande. Il n'y a que les voleurs qui en veulent aux gendarmes. » « N'ayez pas peur, monsieur Clampin, ajouta-t-elle, quand le chiffonnier eut disparu. Oh, je ne veux plus de cet homme-là, il me fait peur. » « Et si vous en étiez, après, je m'y mettrais, moi, jusqu'au cou, pour ne pas me séparer d'un jeune homme que je me sens capable de le suivre partout, comme Orphée aux enfers. »« Pas besoin, répondit le gamin, au travers de ses trous de vrille. Allons sauver la victime du tyran, en route. » Clémentine, entièrement subjuguée, s'attela, et l'équipage partit. Il s'arrêta, selon les instructions de Pistolet, juste devant la porte du cabaret de la Grande Bouteille, et Clémentine se mit à ranger ses choux en criant « À dessous, les gros tas d'escarole, navets, poireaux, carottes !» Le Pistolet était à son poste. Il pouvait voir l'intérieur du cabaret, sombre et sale, où 3 ou 4 couples de joueurs battaient les cartes noirâtres en buvant du vin violet. Au comptoir, il y avait une femme de mauvaise mine qui ravaudait une paire de chaussettes en loque. Sans faire semblant de rien, Clémentine regardait aussi de tous ses yeux. Et jusqu'à présent, elle n'apercevait ni le tyran ni la victime. Il régnait dans le cabaret une sorte de crépuscule, incessamment assombri encore par la fumée des pipes. Au-dessous de la fenêtre principale, un soupirail vitré laissait sourdre une lueur. L'attention de Pistolet fut attirée tout de suite par cette lueur. À force de regarder, il distingua à travers les vitres enfumées du soupirail des ombres qui se mouvaient. La véritable industrie du maître de la maison devait être là, et non point dans la salle du rez-de-chaussée à demi-vide. Pistolet se demandait déjà comment il pourrait pénétrer dans cet antre. Son imagination travaillait. Il fut distrait par l'entrée en scène d'un personnage qui sortit lentement de l'ombre au fond de la salle commune et se dirigea vers la porte. Tout d'abord, Pistolet se dit « c'est le marchef ». Mais à mesure que le personnage avançait, le doute venait, et Pistolet pensa « si c'est le marchef, il est rudement changé ». Quand le personnage atteignit le seuil et parut en pleine lumière, Pistolet affirma « ce n'est pas le marchef ». C'était un vieillard, non pas chétif, mais voûté, cassé et marchant avec une peine extrême. Il portait des lunettes vertes, habillées de soie sur le côté, et un large garde-vue de la même couleur. Les lunettes garnies et la visière pouvaient être un déguisement, mais il était bien difficile de feindre cette décrépitude. Le vieillard descendit les deux marches qui étaient au-devant de la porte et s'approcha de la charrette pour tâter les salades. Pistolet cessa de le voir parce que désormais il était tout près. Mais il l'entendit qui disait à une femme entrant dans le cabaret « Bonjour, madame Mahuset, vous êtes en retard aujourd'hui. » Ce n'était pas la voix du marchef. Madame Mahuset avait cette tournure indéfinissable et souverainement malheureuse de la femme qui boit. C'est assez rare dans nos mœurs, du moins cela passe pour être assez rare. La femme qui boit n'est pas la femelle de l'ivrogne, c'est un être à part, maussade, solitaire, lugubre. Madame Mahuset sauta aux yeux de Pistolet comme une révélation. Il se souvint d'avoir vu passer depuis 10 minutes qu'il était là deux ou trois autres femmes marquées du même cachet, odieux et navrant. La destination de la salle souterraine, éclairée par le soupirail vitré, ne fut plus un mystère pour lui. Il se dit « Ah, c'est une licherie pour dame ». En ce moment, le vieillard marchandait des laitues d'une voix faible et cassée, qui certes ne pouvait pas appartenir à ce robuste coquin coyatier, dit le marchef.